Bonjour à tous, bienvenue à votre Cinébrunch. Mon nom est Jim Boulay et je suis en compagnie d'André-Jean Rouleau et de Mélina Lopez-Nadeau. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Je suis bien heureux d'être en votre présence aujourd'hui pour ce 59e épisode de Cinébrunch, on approche de la soixantaine.
Et, ça se fête, ça.
Ben oui, et on est déjà bien entamé dans le mois de décembre. On peut plus faire les petits gorlots puis les patentes, là. Ça, c'est bon. Et donc, comme on est entamé, on démarre cette semaine avec un thème noëlesque. Hein? Un thème qui touche les fêtes jusqu'à un certain point. On va parler, en deuxième demi-heure d'émission, du fameux Grinch. Mais attention, on va parler du Grinch dans tout ce qu'il est. Donc, on va discuter un peu de l'historique, d'où ça vient, de toutes les productions qui ont été faites, parce qu'il y en a eu plus que je pensais, même,
qui
ont eu lieu.
Sous toutes ses coutures.
Sous toutes ses coutures. Voilà. Et donc, voilà, on va parler de tout ça et on va critiquer, bien entendu, le film Le Grincheux, qui est actuellement au cinéma, disponible probablement jusqu'aux fêtes. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, on va critiquer un certain nombre de films tous ensemble. Mélina, tu as vu un film qui s'appelle Garçon effacé.
Oui.
Ah oui.
Et André-Jean, de ton côté, tu as été voir un film d'horreur.
Oui, le fameux film L'Exorcisme de Anna Grace.
Alors, on va entendre parler de tout ça un peu plus tard, mais juste avant, quelques nouvelles d'ailleurs. Mélina.
Oui, en fait, moi, j'ai une bande-annonce à vous faire entendre.
On y va.
Oui. Oui, non, j'irai, mais là, je suis pogné chez nous. Le gars du câble est encore dans le poteau. Je te le jure. Non, écoute, l'ascenseur est encore coincé, là.
T'avais dit 10 heures.
Je sais, mais écoute.
Ton château au garage.
Non, c'est parce qu'il.
T'as pogné un ticket.
C'est pas ça, mon assistante.
C'est endormi.
Je sais pas c'est quoi le cauchemar d'être le frère d'un mythomane.
T'as toujours une belle raison pour tes retards.
Ton sel a plus de batterie.
T'as jamais de signal.
Ça fait 10 ans que t'es chez le dentiste.
T'as fait 16 crevaisons en 8 mois.
T'as pas failli faire le camp d'entraînement du Canadien.
T'as jamais couché avec 33 femmes dans ta vie.
Ouais, non, ça c'est vrai.
Ah ouais.
Eh bien, on a reconnu Louis-José Houde.
Et voilà, et Louis-José Houde et Antoine Bertrand. Dans cette nouvelle comédie qui va arriver sur nos écrans en juillet 2019. Et c'est réalisé par Émile Gaudreau. Donc, c'est lui qui avait réalisé notamment Mambo Italiano, mais aussi De Père en flic 1 et 2. Donc, il est déjà habitué de travailler avec Monsieur Houde.
Bien sûr.
Donc, voilà.
La bande-annonce s'appelle Menteur.
Menteur, exactement. La bande-annonce est apparue lundi. Donc, allez voir ça, parce qu'à l'audio, ça le rend pas autant. Visuellement, très, très drôle.
Ça a l'air très drôle.
Ça a l'air très drôle. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je pense que ça va être un bon divertissement l'été prochain.
Bon, ben on va suivre ça.
Merveilleux.
Merci, Mélina. André-Jean.
Oui, écoutez, j'ai toujours autant de contacts dans le milieu cinématographique québécois. Donc, j'ai appris que Daniel Groux, hein, le producteur, en fait, entre autres, là, un paquet de téléséries qu'il avait fait, en fait, entre autres, il avait fait Les Bougons, c'est ça, c'est aussi ça la vie, en termes de long métrage.
Qu'on appelle Pods, c'est ça?
Oui, c'est Pods, en fait. Oui. Daniel Groux, de son surnom Pods. Certains se rappelleront peut-être des 7 jours du Talion, de l'affaire Dumont en 2012, de Miraculous L'Homme en 2014 ou encore de plus récemment le King Dave en 2015. En fait, aujourd'hui, c'est ce que j'ai appris, c'est cette semaine qui terminait le tournage de son 6e long-métrage qui sera intitulé Mafia Inc. Donc, l'histoire est campée dans les années 90 et ça relate les tribulations de la famille Paterno, un clan sicilien régnant en maître à Montréal. En fait, en réalité, c'est une des productions qui a fait qu'il y avait le budget le plus confortable, une distribution 5 étoiles qui comprend plus de 50 rôles principaux.
Wow.
C'est basé sur un livre éponyme. En fait, ça a été scénarisé par Sylvain Guy, là, réalisateur de Détour et scénariste de Louis Cyr, en fait, la dernière version qui avait été faite. Le tout est basé sur un livre éponyme des journalistes André Cédillo et André Noël. Donc, deux André qui ont publié en 2010. Donc, bien qu'inspiré... Non, c'est pas les frères André, c'est les frères Rougeau. Mais on n'ira pas là parce qu'on n'est pas dans la lutte, mais bien dans la mafia. Bien qu'inspiré, on dit, de faits réels, le film sera une vraie fiction, en fait, construite à partir d'événements racontés dans ce livre. Une brochette d'acteurs, entre autres, Sergio Castellito, sera entouré aussi, bien sûr, de Marc-André Grondin, de la fameuse Mylène McKay et de Gilbert Sicotte, et bien d'autres, vous pouvez le deviner. Mafia Inc., en fait, sera distribué, malheureusement, à une date inconnue, par les films CVI. Par contre, on peut s'attendre, comme il y a eu des tournages qui ont terminé récemment aussi, qui risquent d'être... on risque d'en voir la couleur probablement en 2019. C'est à souhaiter, du moins, je suis très curieux.
Oui, moi, ça m'intéresse beaucoup, moi, ces sujets-là. Je sais que le monsieur Potts avait déjà fait un peu dans le policier avec sa série 19-2. J'ai hâte de voir l'envers de tout ça du côté mafieux.
Mais on restera dans la fiction, sauf que c'est ça, le fait que ça soit imprégné de notre, notre histoire québécoise.
Tout ça est fort intéressant. Merci beaucoup, André-Jean.
Avec plaisir.
De mon côté, je vais vous parler d'une nouvelle internationale, si on veut. Donc, l'actrice égyptienne Rania Youssef, qui, le 29 novembre, donc en début de semaine dernière, lors de la cérémonie de clôture du festival de films du Caire, je pense que ça s'appelle comme ça, a décidé de porter une robe semi-transparente, ou comme on dit par ici, une robe en screen, et donc partiellement en screen. Les avocats, malheureusement, les avocats égyptiens n'ont pas apprécié la chose et l'ont poursuivi pour incitation à la débauche à cause de sa tenue vestimentaire. Elle risquait 5 ans de prison, mais par la suite, plus tard durant la semaine, la plainte a été retiré sans doute à cause de la grande portée médiatique au niveau international qu'a pris cette nouvelle-là sur les médias internationaux. Et bon, c'est fréquent, m'a-t-on dit, que les actrices et les chanteuses soient emprisonnées, là, carrément, donc jugées et emprisonnées pour, par exemple, des clips, des vidéoclips trop osés ou des choses comme ça. Donc voilà, en Égypte, plus la personne est connue, évidemment, plus souvent, ça finit bien parce qu'elle jouit d'une certaine renommée internationale et on ne veut pas trop déranger les autres pays quand on est dans des situations
Mais j'aurais pensé que c'était, comme tu disais, plus un espèce de coup médiatique, tu sais. Après ça, on retire la plainte.
Semble-t-il que non. Mais c'est pas une actrice de... Je pense qu'elle a fait surtout des séries là-bas, tu sais. C'est ce que j'ai compris. On a eu peut-être un petit peu peur là, du côté des avocats.
Oh, mais c'est intéressant quand l'art reprend son rôle fondamental qui est de choquer et de déranger.
Oui, oui. C'est pas tout le monde qui aime ça, par contre.
Ah non, mais c'est ça le concept.
Exactement. Et dernière petite nouvelle, en fait, qui n'est pas vraiment une nouvelle, je me suis laissé tenter, André-Jean. Je sais, tu vas sûrement m'en vouloir et me regarder avec des yeux de lionceau, mais je me suis laissé aller à regarder la bande-annonce du nouveau film Le Roi Lion en real action, donc avec des personnages réels, ce qui n'est pas du tout le cas, vraiment, là, dans ce cas-ci.
Prise
de vue réelle, parce que, bon, tout est en CGI.
OK, OK.
Mais le réalisme et, comment dire, le...
époustouflant.
Le mignonesque du lionceau.
Du lionceau, oui. Ah, il est mignon. Ah, ça vaut la peine d'aller regarder l'image, parce que...
Oui, j'ai pas mis la bande-annonce, parce qu'il n'y a pas de dialogue, donc ça aurait été un peu plate pour la radio. Mais non,
T'as raison, je te juge, t'es réellement, et je t'en veux probablement pour les prochaines décennies.
J'ai envie de dire Hakuna Matata.
Oui, en fait, je sais très bien par expérience que certains collègues dans un autre emploi que j'occupe seront passionnés et probablement pourront pas éviter d'aller le voir juste parce que t'en parles.
Non, c'est évident. Moi, je pense qu'on va en faire une critique commune l'été prochain. Donc, voilà. Par contre, ce qui était un peu dérangeant dans la bande-annonce, c'est peut-être justement qu'on voit vraiment que c'est en CGI. Là, tu sais, malgré là, le fait que les teintes, le côté cinématographique, le côté photographique même des animaux a l'air très, très réel, ben, veut pas les mouvements des yeux, du visage. On sent là, que c'est Disney là, à côté. Donc,
et dommage, on ne voit pas Timon et Pumba dans la bande-annonce.
Je me demande vraiment comment ils vont réussir à créer ça là, à CGI pour que ça ait de l'allure. Oui. Parce que les personnages étaient très caricaturales.
Oui, c'est ça.
On va voir. Donc voilà, à suivre pour le Roi Lion. Mais sinon, c'est Cinébrunch qui commence. Mélina, tu es allée voir le film Garçon effacé.
Oui, les Garçons effacés, donc un drame biographique scénarisé et réalisé par Joel Edgerton. Et ça met en vedette Lucas Hedges, Nicole Kidman et Russell Crowe. Et ça raconte l'histoire de Jarrett, un jeune de 19 ans qui vit dans une petite ville de l'Arkansas aux États-Unis. Ses parents sont très religieux. Son père, en fait, c'est un pasteur baptiste. Et lorsque Jarrett décide de révéler son homosexualité à ses parents, il décide de l'envoyer dans une thérapie de conversion. Thérapie de conversion, c'est quoi? Hein? C'est dans le but de changer l'orientation sexuelle d'une personne. Donc, c'est quelque chose qui est encore bien présent, bien qu'interdit dans quelques États aux États-Unis. Les statistiques sortent à la fin du film et c'est dans une minorité d'États que c'est interdit. Donc, dans une majorité d'États, c'est encore permis d'offrir des services de thérapie de conversion. Donc, voilà, ça amène la lumière sur ce sujet-là un peu.
Oui, c'est vrai, il y a eu des cas d'ailleurs récemment de scandales par rapport à ce sujet-là. Fait que je trouve ça... Ça tombe plutôt cool. Bien là, ouais. comme moment pour sortir le film. Ouais.
Définitivement, et c'est basé sur une histoire vraie, donc sur l'histoire de Garrett Conley, qui a écrit un livre sur son expérience, livre qui est sorti en 2016, et donc c'est sur ce livre-là que le film est basé. Donc on va aller écouter la bande-annonce.
Tes parents t'ont inscrit à un programme pour te guérir, mais tu es un adolescent parfaitement normal et en santé.
Ils vont pouvoir t'aider.
Your revelation.
C'est le temps de vous dire au revoir.
Bienvenue au programme du refuge.
On ne peut pas naître homosexuel, c'est un mensonge. C'est un choix.
Ok, en attendant, faites semblant. Devenez l'homme que vous n'êtes pas. Sauvez votre âme.
Jared, Dieu ne t'aimera pas si tu ne changes pas.
Est-ce que c'est ça que tu veux? Qui veut anéantir ce démon? Frappez-le!
Donc, c'était la bande-annonce du film « Garçon effacé ». En fait, petite parenthèse, on retrouve deux acteurs québécois dans ce film-là. Donc, Xavier Dolan et Théodore Pellerin. Xavier Dolan qui joue le rôle d'un autre jeune dans la thérapie de conversion. Mm-hmm. Et Théodore Pellerin qui joue le rôle d'un des premiers amours de Jared. Donc, c'est le fun de voir deux acteurs québécois mis en vedette dans une production américaine de ce type-là. Donc là, c'est rendu le moment moins le fun. C'est rendu le moment où je dois critiquer le film. Et,
ça sent la destruction.
Ben oui, ben, c'est ça.
En fait, je sais pas la destruction parce que je suis sortie du film en me demandant comment je vais critiquer ce film-là. Parce que pour moi, c'est très dur de trouver ce qui fonctionne pas dans le film. Donc, j'ai choisi de commencer par ce qui fonctionne parce que c'est vraiment le plus facile. Premièrement, les acteurs. Les acteurs et les actrices sont tous excellents dans le film. C'est sûr qu'on a quand même des gros noms, là. Nicole Kidman, Russell Crowe. Ils nous livrent des super belles performances et tout en nuances, c'est très crédible. Les personnages aussi, ils sont très nuancés. C'est-à-dire qu'on ressent vraiment la complexité de l'humain dans leurs actions et leurs réactions. On aurait pu facilement tomber dans certains clichés où certains personnages sont juste méchants parce qu'ils sont méchants,
ouais.
sans qu'on comprenne trop pourquoi. C'est
comme
pas le cas.
Le cinéma américain le fait souvent. Là.
Exactement. Et c'est pas le cas dans ce film-là. Donc ça, c'est une très belle réussite. Les personnages qui sont méchants ne sont pas juste méchants, c'est-à-dire qu'on voit vraiment l'humain dans toute sa complexité. Donc, ça, c'est très bien. L'histoire est extrêmement crédible et surtout, ça réagissait fortement dans la salle de cinéma, c'est-à-dire des fois des petits sacres qui sont échappés par quelqu'un qui parce que des fois, ce film-là peut être renversant.
Mm.
Mais en fait, ce qui fonctionne pas dans le film, ce qui fait en sorte que le film punche pas autant qu'il aurait pu le faire, il y a quelque chose qui fait ça. Puis c'est très dur à évaluer c'est quoi. Mais c'est surtout que je trouve ça très dommage. Puis ça m'a même un peu fâchée en sortant du film. Parce qu'on parle ici dans le film d'un sujet qui est bouleversant, qui est terrible même. Et je trouve que le film n'est pas à la hauteur de ce qu'il aurait pu être. Parce que ce film-là aurait pu être extrêmement plus troublant et touchant, compte tenu de la thématique quand même très lourde qu'il aborde. Ça aurait pu vraiment être un film coup de poing, comme on dit. Mais l'affaire, c'est que ça ne l'est pas. Du moins, pour moi, ça ne l'a pas été. C'est okay. sûr que c'est un film qui est basé sur un livre, donc on ne peut pas trop modifier l'histoire. Il faut rester fidèle à l'histoire. Mais je pense quand même qu'au niveau de la réalisation et de la scénarisation, c'est un film qui aurait pu être vraiment plus fort. Si le réalisateur avait fait des choix différents. Ce que je veux dire par là, c'est que vous savez, un film, c'est un peu comme des montagnes russes. Hein? On monte, on descend, mm-hmm. on monte, on descend, ça nous amène dans toutes sortes de raccoins. Mais ce que je voudrais dire, c'est que j'ai pas aimé comment le réalisateur a choisi de placer ces montagnes russes-là. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des moments de silence qui servent à renforcer quelque chose de terrible qui vient se passer, qui sont pas nécessairement mis au bon endroit. Je pense qu'on respecte pas non plus un certain cadre de scénario. C'est-à-dire que d'habitude, un scénario se passe d'une certaine façon, ça monte en tension et ensuite ça se résolue. Là, le scénario aurait pu être divisé comme en deux parties. C'est comme si on avait voulu montrer trop de choses sans en montrer assez. On n'a pas voulu montrer certaines choses et juste les dire dans un but que ce soit plus fort, parce que des fois, ce qu'on ne montre pas nous touche plus que ce qu'on nous montre. Mais ici, c'est des choix que je trouve qui n'ont pas nécessairement servi le film. J'aurais vraiment aimé ça, être beaucoup plus bouleversée par ce film-là.
Mmh. Oui, parce que tout était là pour ça, là.
Exactement. Oh, oui, parce qu'on a des acteurs excellents, on a une histoire qui est excellente, basée sur des faits vécus, mais on dirait qu'il manque le petit quelque chose qui fait en sorte que ce film-là va vraiment nous rentrer dedans. Ce qui aurait très bien pu se faire, en fait.
Parce que mal découpé, autrement dit. Hein.
Je pense que
mais
oui.
Aujourd'hui, c'est pas pratiquement impossible. Tu sais, moi, je suis encore surpris que le thème soit actuel, comme Jim le disait tout à l'heure. C'est-à-dire que soigner l'homosexualité comme une maladie mentale aujourd'hui, est-ce que c'est encore possible de toucher les gens, comme tu dis, là, de façon coup de poing avec un sujet comme ça? Ben, en tout cas, ici, je sais pas.
Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que...
Ben que, visiblement, faire un film coup de poing, peut-être que c'est un film coup de poing dans certains états.
Peut-être.
C'est ça que je veux dire. Je veux dire, là, ben, je veux pas t'arrêter dans ta critique, là, mais je me dis peut-être que nous, toi, tu l'as pas perçu comme un film coup de poing parce que ça nous touche pas pantoute au Québec. Okay, je pas de thérapie ici. Ouais. Je veux dire, ça prend pas racine dans rien de connu au Québec. À ma connaissance, il n'y a aucune thérapie.
Pour nous, cet enjeu-là est un peu réglé jusqu'à un certain point, versus d'autres endroits.
C'est ça, exactement.
Fait que tu veux dire qu'il n'aurait pas été vraiment pensé pour un public aussi ouvert. Donc...
Ben, il a peut-être été pensé justement pour être plus large. C'est-à-dire qu'on va peut-être pas assez... dans... Toi, ce que ça aurait pris pour une... Tu sais, je me dis, dans un... là, c'est une... je déborde, là, mais dans le principe d'une population qui a déjà des idées plus progressistes, on peut pas leur rentrer dedans. Si on leur rentre dedans dans eux autres, on détruit complètement la critique qu'on va avoir dans une place où c'est ancré dans la société.
Oui. Oui.
Là où il y a des thérapies qui fonctionnent actuellement, ou qui sont là, il y a déjà des gens qui, dans leur commun, dans leur quotidien, doutent de est-ce que c'est une maladie mentale ou etc. Peut-être, c'est ça, je te dis. Peut-être qu'il y a eu une pédale douce de mise là-dessus intentionnellement.
Très intéressant comme
point. Je sais pas.
Ça se pourrait parce que moi, je me suis beaucoup posé la question en me disant comment je vais critiquer ça, mais je pense que le point que tu apportes peut être extrêmement valide. Effectivement, je sais pas. Puis des fois, la pédale douce est mise au niveau de la production en tant que telle parce qu'on veut, comme tu dis, des bons résultats. On veut tout ça. Donc, c'est peut-être ça qui a fait en sorte que peut-être qu'on voulait moins frapper, on voulait rester dans le plus l'accessible parce que je pense que ça aurait pu être beaucoup plus rough comme film.
Oui, c'est ça que tu dis. Bon, je comprends. C'est je suis sensible ça. À l'affaire. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que tu en as pensé au final? Parce que...
Ben, j'étais un peu déçue, en fait, que ce soit pas aussi rough. Okay. Mais ça reste que c'est un très bon film. Mais je sais pas. Et à un moment donné, peut-être les 30 dernières minutes du film, on se trouve à faire un saut 4 ans plus tard. Donc, est-ce que c'était nécessaire ou pas de faire ce saut-là? D'habitude, quand on fait un saut 4 ans plus tard, ou en tout cas beaucoup plus tard, on se trouve à faire ça dans peut-être les 10-15 dernières minutes du film, juste pour montrer comme une résolution. Mais là, on se trouve à se replonger dans un autre conflit 4 ans plus tard. Donc ça, c'est... Tu sais, au niveau du timeline, de la ligne directrice du film, de la structure, au niveau du temps, peut-être des fois, on... C'est ça. Ça fait en sorte que ça reste moins fort parce qu'on revient, mais d'une façon différente... Je sais pas. Écoute, je sais pas. Ça reste que c'est un film à voir. C'est un film... Je pense que c'est un bon film. C'est un film à voir. J'ai certaines déceptions, mais ça reste un très bon film.
OK, c'est on y va quand même.
On y va quand même, oui. On y va quand même. Et c'est ça. Je pense que, comme tu dis, peut-être ailleurs, dans certains états ou tout ça, c'est un film qui peut probablement faire bouger les choses. Ici, j'ai pas regardé c'est quoi la réglementation au Québec par rapport aux thérapies de conversion, parce que ce que j'ai lu dans certains pays, par exemple, c'est très mal vu, mais c'est pas contre la loi de faire ça. C'est-à-dire quelqu'un pourrait quand même décider de se partir un centre de thérapie de conversion. Et cet endroit-là qui parle dans le film, c'est un endroit qui a vraiment existé. Ça reste quand même un sujet qui est très d'actualité là-bas. Mm-hmm. Ici, je sais pas à quel point. Oui, probablement un peu moins, oui.
Et ta note serait?
Ma note serait d'un 7 sur 10.
7 sur 10.
Oui.
Donc, la déception se sent quand même dans ta note.
Oui, la déception se sent parce que je pense quand même qu'il y a quelque chose au niveau de la réalisation du scénario. Je réussis pas encore à trouver c'est quoi, probablement au niveau de comment on a structuré nos affaires, que je pense que ça aurait pu être mieux. C'est sûr que j'ai pas lu le livre, donc ça aurait été intéressant de voir le comparatif entre le livre et le film, peut-être pour appuyer un peu les choix de la réalisation ou non. Donc, mais ça reste un film à voir.
Eh bien, ben merci beaucoup, Mélina.
Merci. Thank you.
Donc, André-Jean, tu es allé voir un film d'exorcisme.
Oui, effectivement. Donc, produit, en fait, actuellement à l'affiche au cinéma, à la Maison du cinéma, depuis le vendredi 30 novembre. Il s'agit de L'exorcisme de Anna Grace ou The Possession of Anna Grace. Moi, j'ai vu la version française. Hein, je vais revenir là-dessus parce que ça m'a peut-être teinté dans ma, dans ma critique. Pardon. Réalisé par Diederik Van Rooyen. Et là, pardonnez mon accent québécois en néerlandais. C'est très marqué.
On est en Europe là.
Réalisateur et scénariste, en fait, c'est un individu qu'on connaît pour La guerre de Stella en 2009. J'étais pour dire en 2019, mais on n'est pas rendu là. Et Daylight en 2013, bien sûr. Écoutez, on a deux actrices canadiennes ou une canado-américaine, Stana Katic, Shay Mitchell, qui est canadienne aussi, et les Américains et Américaines, soit Grey Damon, Louis Hertum, Kirby Johnson et James A. Watson Jr. En fait, je vous invite à écouter moi la bande-annonce.
Ce travail ne convient pas à tout le monde.
À cause des horaires?
Alors, vous avez eu des problèmes?
Oui, j'ai eu des problèmes.
T'as la nouvelle?
Meghan!
Tiens, elle est bien spéciale, celle-là. Elle s'appelle Anna Grace. Sa famille était en train de pratiquer un genre d'exorcisme sur elle.
Quand on meurt, on meurt. Point final. Y a quelqu'un?
Beaucoup d'effets sonores dans
oui,
cette bande-annonce.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est intéressant.
Ben, c'est beaucoup hein, comme ça que ça se passe. En fait, ceux qui viennent d'arriver avec nous, vous venez d'entendre la bande-annonce de L'exorcisme de Anna Grace. Donc, je vous fais le synopsis un peu. Une ex-policière déchue en désintoxication accepte un travail dans la morgue à l'hôpital métropolitain de Boston où elle se soigne elle-même. Un jour, un corps s'avère sévèrement mutilé, lui est confié. La jeune femme assiste alors à une série de meurtres qui la conduira à affronter une entité démoniaque. Eh bien, voilà. Aujourd'hui, je commencerai ma critique en disant qu'à mon point de vue, c'est terriblement difficile de faire un film d'horreur crédible aujourd'hui. Mm. Et c'est pour ça que dans bien des cas, en fait, en ce qui me concerne, je ne sais pas pour l'auditoire ou pour vous autres, mais je vais être plus sensible à justement le film d'horreur surnaturelle, en fait, comme il s'agit là, à ce point-là.
Côté avec des fantômes, des trucs de genre.
Ben, on réfère à des entités qu'on peut expliquer, que la science n'arrive pas toujours à expliquer, etc.
Plus que quelqu'un qui se cache avec une hache dans un buisson, là.
Ben, moi, le psychotique, qui va... tu sais, le film slasher ou... je dis pas que je suis contre le principe, c'est très difficile d'arriver à créer des classiques. Je veux dire, tous ces films-là qu'on fait aujourd'hui, la plupart du temps, vont être inspirés de films cultes qui ont marqué notre inconscient collectif il y a déjà des années. Donc aujourd'hui, repartir à partir de ça, là, dans les faits, il s'agit d'une espèce d'histoire inspirée de faits réels. En fait, les faits réels sont simplement... une policière qui s'est retrouvée à travailler à la morgue après justement avoir été traumatisée lors de son travail finalement. Je vous dirais que dans cet esprit-là, j'ai trouvé qu'il y avait une excellente combinaison des moments de silence. Comme vous disiez, la trame sonore est très importante. Elle aussi se combine à ces moments de silence-là et permet la création d'une tension croissante. Il n'y a pas d'hésitation de ce côté-là. Le réalisateur connaît la recette. Direction de la photographie dont le rythme est brisé, mais sans toutefois qu'on perde la tension, en fait. Donc, il reste visuellement, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous cache la majorité des choses. Mmh. Puis on commence donc beaucoup plus dans la tête de la protagoniste, hein, qui est Meghan Reed. On est beaucoup plus dans sa tête, dans ce qu'elle vit, dans son traumatisme, dans le fait qu'elle essaie de se réinsérer elle-même. Et tout d'un coup, vers la fin du film, là, on commence à voir les choses. On voit ce qu'on ne veut pas accepter, en fait, puis qu'elle non plus ne veut pas accepter, hein, que le rationnel tente toujours d'expliquer. Parce qu'on l'entend dire,
quand on est mort, on est mort. Oui, il y a plein de visions.
Exactement, là, à ce moment-là, elle est à l'embauche de son affaire, parce que, travailler dans une morgue, on va se le dire, c'est quand même une situation qui n'est pas jojo. Hein, n'importe qui le fait, puis même c'est assez simple pour nous autres de se confronter, lorsqu'on est face à un cadavre quotidiennement et de façon régulière, hebdomadairement, c'est quelque chose qui est plutôt confrontant. Le jeu d'acteur est crédible et c'est là où j'arrive avec la version française que j'ai vue. J'aurais aimé voir la version anglaise, en fait. je dois avouer que ça rend ce que ça a à rendre, OK, en termes de réalisme situationnel, mais la protagoniste, là, la fameuse ex-policière Megan Reed, me semble un peu acharnée pour une personne qui est traumatisée, en fait. Je sais, le setting, c'est qu'elle est en thérapie déjà depuis un moment avant d'être réinsérée dans cet emploi-là, mais je dois avouer que ça m'a un peu... c'est ça, je trouvais que c'est une limite de réalisme. Est-ce que c'est simplement le langage, la traduction qui m'a dérangé? Je sais pas. Est-ce que ça m'a donné comme une impression de un peu de longueur dans le développement de toute la situation, finalement? Bien que le film en entier se déroule, en fait, là où ça commence à dégénérer, ça se passe en une nuit. Okay. Donc, il y a comme une espèce de bris dans le rythme qui m'a dérangé. Je trouvais que c'était un peu long, en fait. Cela dit, je dois avouer que je peux pas détruire la chose. C'est un, comme je dis, le défi de faire un film d'horreur aujourd'hui qui est crédible et qui peut nous faire sentir un petit peu inconfortable, et il est atteint. J'y donne un 8.5, en fait, sur 10, parce que c'est... L'objectif est atteint. Il y a possibilité d'avoir des frissons là, il n'y a pas de problème. L'histoire, c'est que dans ce qu'on dévoile, de ce qu'on dévoile pas, à un moment donné, tout le monde ne sera peut-être pas touché autant que j'ai pu l'être. Sauf certaines, imprégnez-vous de la bande sonore et vous allez avoir des frissons, ça c'est clair.
Très intéressant, donc un film d'horreur pour le temps des fêtes.
Mais voilà. C'est pas lié à la série L'Exorcisme qu'on...
Non, pas du tout. Okay. Non, pas du tout. Ça, c'est le seul fait réel qui est inspiré. Qui inspire ce film-là, en fait, c'est justement un fait divers qui était à Boston, qui était une policière comme ça qui s'est retrouvée à travailler dans une morgue après avoir vécu un traumatisme. En fait, c'est son... Non, je ne vendrai pas le punch non plus, là. Une histoire de policier qui se termine mal, et donc elle a pète une coche, et puis on la suit là, dans ses tribulations après ça à l'emploi.
Eh bien, merci beaucoup, André-Jean.
Un plaisir.
Toujours à Cinébrunch, nous allons parler dans une dizaine de minutes du film, en fait des films, de l'univers, du conte, du Grinch, le Grincheux. On va en parler, André-Jean, Émilina et moi-même. Oui. On va vous en parler amplement. Vous allez tout savoir sur le Grincheux. C'est tout ce que vous vouliez et vous n'avez jamais osé demander, vous voulez savoir sur le Grincheux. Voilà. Donc, mais juste avant, je vais vous parler d'un film que j'ai vu cette semaine. Et cette semaine, je me sentais visiblement dans l'envie de rester chez moi. Et j'ai regardé un film sur Netflix. Mais pas n'importe lequel. J'ai regardé le dernier film des frères Coen qui s'appelle La balade de Buster Scruggs. C'est un film qui a été produit par et pour Netflix et qui met en vedette, entre autres, Tim Blake Nelson, Brendan Gleeson, Liam Neeson, ça se ressemble ces noms-là, James Franco et Zoe Kazan, pour ne nommer que ceux-ci. C'est un film américain et en fait, c'est un regroupement de plusieurs sketchs ou de plusieurs courts-métrages, si vous voulez, qui se passent tous à l'époque western. On écoute la bande-annonce.
People are so easily distracted. I'm Buster Scruggs.
You're shooting ironwork.
Appears to do, yes.
Things have a way of escalating out here in the West.
My name is Ozymandias, King of Kings.
That man is a wonder. Oh, we'll just have to see, won't we?
Crazy business.
First time.
Alors, si vous avez vu le film, il y a certaines scènes qui vont vous revenir. Comme je le disais, c'était le film La balade de Buster Scruggs, un film des frères Coen sorti sur Netflix et produit pour Netflix. J'en ai parlé un peu avant la bande-annonce. C'est un regroupement de 6 sketchs qui se passent aux États-Unis à l'époque western. C'est pas la première fois que les frères Coen abordent le thème du western. Ils l'ont fait notamment dans No Country for Old Men et True Grit. Ici, cette fois-ci, on aborde 6 films de manière complètement indépendante qui ont comme seul point commun, comme je vous le disais, l'Amérique et l'époque western. Donc, il n'y a pas de lien entre les personnages, entre les différents films, tout ça. C'est juste qu'ils sont mis ensemble sous forme d'une espèce de conte. Donc, il y a comme un livre, on tourne les pages et à chaque fois qu'on commence un chapitre, on rentre dans un nouveau film. Et c'est comme des nouvelles, si vous voulez. Donc, le premier sketch, je vais y aller un par un. Le premier sketch s'appelle donc « La balade de Buster Scruggs ». C'est le titre aussi du regroupement donc, du film. C'est l'histoire d'un hors-la-loi un peu bizarre, vêtu de blanc, qui chante et qui tire du fusil comme Lucky Luke. Et un jour, alors qu'il entre dans un saloon d'un village éloigné, il se joint à une partie de poker et ça tourne mal. Il va se retrouver en duel. On est vraiment à ce moment-ci dans une, ce qu'on pourrait appeler une comédie qui frôle l'absurde et la comédie musicale, donc quelque chose de très léger. Le deuxième sketch, près d'Algodones, c'est l'histoire d'un cow-boy qui tente de braquer une banque pendant vraiment perdu dans le désert, mais ça tourne mal encore une fois. Le troisième sketch, très troublant celui-là, Liam Neeson interprète un organisateur de spectacle ambulant qui trimballe son cirque, donc sous forme de caravane, et avec lui, un jeune artiste sans bras ni jambes qui raconte une histoire au client. Et je ne vais pas trop en dire sur ce film-là parce que c'est relativement tragique comme film, c'est vraiment intense. Il peut paraître un peu plus long que les autres, mais ça renforcit vraiment au bout du compte là, la profondeur de l'histoire et la fin, donc un peu tragique. Le quatrième sketch, un de mes favoris, celui-là, Gorge dorée, donc c'est l'histoire d'un vieil orpailleur qui tente de trouver une poche d'or près d'un ruisseau. On découvre un personnage extravagant, mais vraiment plus vrai que nature. C'est magnifique, cette histoire-là est vraiment sublime. Le cinquième sketch, donc l'avant-dernier, raconte l'histoire d'Alice Longabout, première fois qu'on a une femme au premier plan d'une histoire dans le film, et de son frère Gilbert, qui s'embarque dans un convoi de caravanes vers l'Oregon. Donc, comme on voit dans les vieux films, les caravanes qui se suivent tout ensemble, là, mm-hmm. qui se mettent en rond. Là. Bon. Alors, Alice doit se rendre là-bas pour épouser son futur, en fait, le futur associé de son frère. Malheureusement, son frère meurt soudainement pendant le trajet, et Alice ne peut payer la commission de la caravane. Elle va tenter de trouver une solution. Ce sketch-là est magnifique, mm-hmm. vraiment magnifique. Il y a une attaque d'Indiens qui est franchement réelle dans cette histoire-là. On a vraiment été puisé là, dans les classiques pour recréer des choses. C'est vraiment, vraiment de toute beauté. Et finalement, le dernier sketch, mais non le moindre, le sixième, se passe dans une diligence qui transporte des gens de diverses classes sociales et d'origines différentes vers Fort Morgan. Ils parlent chacun de leur passion alors qu'un parfum de peur augmente progressivement. Est-ce une métaphore sur leur mort imminente ou un canular? Va savoir. Voilà, c'est compliqué un peu de critiquer ça parce que c'est tous des petits films de quelques minutes, mais d'entrée de jeu, on est vraiment dans un film des frères Coen. La photographie est extraordinaire, les paysages sont à couper le souffle, les caméras avec des lentilles à grand angle donnent des plans vraiment intéressants. Comme d'habitude, les frères Coen très inspirés du film noir, donc on mélange les genres, on joue avec nos émotions sans qu'on s'y attende en mélangeant par exemple le léger au lourd et le vrai au caricatural. La musique accompagne magnifiquement le récit. C'est d'ailleurs un compositeur qui est associé avec les frères Coen, ils ont été associés pour plusieurs films. J'ai pas grand chose à dire d'honnêtement de négatif sur ce film-là, à part quelques inégalités et quelques longueurs par-ci par-là. Donc, c'est certain qu'il faut aimer le genre western, parce que même si, ben, en fait, on respecte parfaitement les conventions du style western, de la culture, l'esprit des personnages et les enjeux de l'époque, l'angle de la caméra des frères Coen nous amène ailleurs. Là où on n'est jamais allé, mais surtout là où on ne pourra jamais retourner. Et c'est ça qui est magnifique. Je donne un 9 sur 10 à ce film-là. C'est super bon. La balade de Buster Scruggs des frères Coen, c'est sur Netflix seulement. Mais voilà, un film vraiment le fun. Puis bizarrement, là, je sais que, bon, western, tout ça, mais je trouve que pour le temps des fêtes, là, c'est un petit Netflix le fun à regarder. On peut faire une pause entre chacun des petits films, aller chercher du popcorn, la liqueur, puis des cannes de bonbons.
Oui, mais c'est ça, j'étais pour dire, c'est pas teinté de ta, comment je pourrais dire, de ton admiration pour les fameux frères Coen, ta critique. Je comprends que c'est difficile, là, mais sans être en adulation, c'est quand même
puissant. Oui, mais c'est plus difficile de critiquer des courts-métrages parce que t'as beaucoup moins de temps pour placer tes affaires. Ouais. Fait que eux, ils sont vraiment bons pour faire ça. Ils sont très bons pour que rapidement on entre dans la pensée du personnage, dans l'espèce de justement, dans la personnalité, dans les complexités des enjeux et des personnages. Et ils réussissent, à toutes les fois ou presque, à nous tromper. Donc, à nous faire croire que ça s'en va dans une direction et paf, à la fin, c'est plus ça. Et pourtant, ça se tient. Donc, moi, je trouve que c'est très réussi. C'est certain que j'aime bien les frères Coen, mais...
Non, mais je faisais l'avocat du diable.
Non, mais moi aussi, parce que moi, je l'ai vu, puis je vais renchérir sur l'avocat du diable parce que j'ai pas été séduite par ce film-là. Okay. Et Jim, tu l'as abordé un peu, mais ce qui m'a profondément dérangée, c'est que on ne voit qu'une femme pendant tout le film.
On voit plus qu'une femme. Il y a
Il y a une femme qui a des dialogues durant les 6 courts-métrages. Oui, ça, moi, ça m'a extrêmement dérangée parce que ben de un, au niveau de mon identification au personnage, impossible de s'identifier au personnage pour ma part. Puis il y a toujours le... Non, mais je fais l'avocat du diable, je sais que tu seras pas d'accord avec moi.
Non, mais il y en avait,
il y a toujours cette mythique qu'on la femme qui tient tête à tous les cow-boys, on la voit pas du tout dans ce film-là. Je veux dire, il y avait toujours une femme dans ces films-là qui était vraiment...
Même dans l'histoire où celle qui va se marier, oui, là, elle est vraiment l'avant-plan. OK, mais c'est la seule. Okay.
C'est la seule, puis elle a pas cette force-là qu'on voit d'habitude. D'habitude, dans les films, il y a toujours la femme qui va tenir tête, puis que tous les hommes cow-boys vont avoir comme... vont respecter parce que c'est une femme très forte. On voit pas du tout ce personnage-là. On n'en voit qu'un durant toute... les courts-métrages, moi, je trouve ça absolument horrifiant de mon point de vue parce que, je veux dire, on est quand même en 2018. Je veux dire, je veux pas jouer cette carte-là.
Attends, on est en 2018, mais ça se passe quand même en 1800.
Oui, mais il y avait quand même autant de femmes. Non, mais il y avait quand même autant de femmes à ce moment-là. Moi, je trouve ça quand même terrible qu'on fasse un film qui raconte.
Mais tant qu'à être dans les clichés, effectivement, on aurait pu mettre celle-là peut-être aussi. Sans vouloir, je vais pas la ramener. Moi, je l'ai pas vue personnellement.
Mais... moi, je voudrais faire l'avocat du dieu dans cette histoire-là. Parce qu'à un moment donné, on prend pas le temps de se familiariser avec un endroit, avec un village, avec un truc. On suit toujours un personnage ou deux personnages, et c'est beaucoup de la solitude dont il est question dans ces films-là. Donc, c'est beaucoup le cow-boy à l'étranger, c'est beaucoup le tu sais, comment je dirais ça, les postes, les rôles au niveau emploi, là, au niveau des emplois de l'époque, qui sont amenés dans ce film-là ne sont pas des emplois féminins, ne sont pas des rôles féminins. Il y en a clairement des femmes, mais c'est le concept est que veut pas, les banquiers étaient des hommes à cette époque-là. Je pense qu'on a voulu rester dans cette espèce de réalisme-là, et je pense que d'avoir amené... Je veux dire, Tarantino est le premier à mettre des femmes dans des positions particulières. On va se dire, si je prends l'exemple de Kill Bill.
Mais là, on ne parle pas de vulgarité.
Mais Kill Bill est un néo-western. Kill Bill, c'est un western opéra, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est un western qui se passe maintenant dans un sens où les autres films... Tu sais, c'est, les armes ne sont pas les mêmes et tout ça, mais quasiment... Et tu vois, là, tu as une femme à l'avant-plan, mais tu crées quelque chose d'autre. Et c'est correct, c'est très bien. Sauf que là, ce qui voulait être créé, c'était de garder tout le réalisme de cette époque-là, mais... d'entrer dans une profondeur des personnages qui n'a jamais été visité dans un western.
Donc, et c'est des 15 minutes, des 12
c'est
minutes.
C'est des courts films.
Comme tu dis. On réfère à des clichés.
Je pense quand même
plus,
qu'on aurait pu en mettre plus de femmes. Pour moi, ce film-là, c'est,
non, c'est un party d'hommes. Après avoir fait l'avocat du diable avec Jim, je vais le faire avec toi parce que moi, j'ai quelqu'un d'autre qui m'a... Je ne l'ai pas vu encore, mais je trouvais ça intéressant que Jim ait regardé parce que je me suis dit, j'aurais pas le choix de le regarder parce que j'ai eu une critique d'une autre femme, justement, pour qui ça n'a pas dérangé du tout, ça, du moins. On n'en a pas parlé longtemps, mais ce qu'elle m'a dit, c'est un incontournable. Il faut que tu ailles voir ça sur Netflix. Oui. Donc, je me suis dit, quand même, il y a quelque chose là. Cela dit, on a toutes nos sensibilités, puis je peux comprendre, parce que le cliché de la femme forte, justement, de la femme cow-boy, existe aussi.
Oui, effectivement. Fait qu'on aurait peut-être pu l'exploiter un peu plus. Non, exactement.
Parce qu'effectivement, il aurait pu avoir un effort de fait, comme tu dis, pour qu'il y ait au moins plus qu'un film qui traite d'un personnage féminin.
Qui mais là,
de
là à fort, dire que la volonté.
Non, mais regardez, c'est pour ça que je dis, on est très émotif. Quelque part, j'adore ça, ce genre de discussion-là qu'on a, parce que. Qu'est-ce que ça donne à l'auditoire? J'espère le goût d'aller vous faire votre propre idée sur
allez voir le film, puis écrivez-nous sur Facebook pour nous dire ce que vous en avez pensé.
Définitivement.
Parce que ça vaut la peine de... Moi, je veux dire, j'ai rien contre l'idée qu'il y ait plus de personnages féminins et tout ça. J'ai aucun problème avec ça. Simplement, bon, je pense qu'on a voulu rester dans le western plus classique puis de le traiter d'une autre façon. Et comme dans pas mal tous les westerns que j'ai vus, ben, l'action est vraiment très masculine. C'est un fait, là. C'est un fait certain. On voit... jamais de personnages amérindiens ou ils appelaient les Indiens à l'époque d'Indiens femmes ou presque. C'est un autre monde, les saloons, évidemment, il n'y a pas de femmes qui ont le droit de rentrer dans les saloons.
Il
y en a dans les diligences, il y en a une femme.
Il y
en a une femme dans un autre truc. On voit une femme avec un gros plan à la fin d'un autre sketch. Il y a quand même des femmes, mais ils n'ont pas des positions de rôle proéminent. Ça, c'est un fait.
Alors, écoutez, conclusion, allez le voir et enflammer notre page Facebook, manifester votre opinion, votre accord, votre désaccord avec Jim ou Mélina.
Voilà.
Elle est là pour ça, après tout.
Absolument. Oui. Et donc, je répète le titre du film, en fait. La balade de Buster Scruggs, c'est sur Netflix. Vous allez vous faire votre propre idée, donc voilà. À suivre. Aujourd'hui, on va parler du Grinch, ou en français, du Grincheux, parce que le nouveau film du Grincheux est au cinéma en ce moment, en fait, depuis plusieurs semaines, et probablement pour toutes les fêtes. C'est un film, c'est un retour, en fait, au film d'animation après, notamment la version de Jim Carrey en l'an 2000. Je vais critiquer le nouveau film, donc un peu plus tard, mais d'abord, on va discuter tous ensemble, et je vais donner la parole à André-Jean pour commencer, de l'origine, donc, du Grinch. Et André-Jean, tu vas nous faire un petit historique, là, de ton...
Voilà, ben,
de ton
oui, truc. Parce que comme dans n'importe quel conte qu'on a récupéré, des fois, et qu'on se retrouve sans trop se poser de questions à souligner une fête païenne dans notre culture catholique, romaine, catholique romaine, finalement, on ne sait pas d'où ça vient. Et j'étais curieux de voir de quelle société ou de quelle religion on avait récupéré cette histoire-là. Et ben non, à ma grande surprise, coup de théâtre, comme diraient certains, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que le personnage du Grincheux lui-même est apparu pour la première fois en 1955 dans le numéro de mai, je m'excuse d'être spécifique comme ça, du Red Book, okay, qui est un magazine de fiction illustrée, en fait, qui existait aux États-Unis et qui existe toujours. Dans un poème, en fait, la première fois qu'on réfère, donc on est en 1955, dans un poème de 32 lignes intitulé le Hobo, ou oui. Hobob et le Grinch, ou et le Grincheux, disons. Mais a fait ses débuts en réel, réellement, en fait, il est apparu officiellement dans un conte de Dr. Seuss, intitulé, bien sûr, « Comment le Grinch a volé Noël », pardon, excusez-moi, avec le Grinch, Grincheux.
Oui, ça vient mêlant, tout ça.
Version française, ouais. Anglaise, ça n'arrête plus. Bon, écrit et illustré, bien sûr, hein, ça se voulait une espèce de BD, histoire BD, par, comme je disais, Dr. Seuss, qui est sous son réel nom, Ted Geisel.
Donc, il a fait un paquet d'affaires aussi.
Là. Oui, ben exactement. C'était un illustrateur à l'époque, après ses multiples études. Là, j'ai regardé un peu ce que le bonhomme a fait. Il a fait plusieurs choses, puis à un moment donné, toujours en sortant de l'université, il est devenu illustrateur pour des BD, puis contes pour enfants beaucoup, etc. Puis à un moment donné, il y a eu un arrêt, en fait, parce que, bon, c'était la guerre, hein, et il est tombé dans un... toujours dans l'illustration, mais c'est là où on l'a accusé un petit peu des fois d'être raciste, sexiste, ou etc., parce qu'il faisait des BD pour les forces armées, ou etc., des illustrations qui étaient teintées de quelque chose qui aujourd'hui, disons, peut être clairement interprété comme des propos qui sont déplacés. Cela dit, c'était pas le but à l'époque, et il faut se recontextualiser, et c'est surtout pas le thème actuellement. Donc, je poursuis avec la première version d'un dessin animé, en fait, qui est fait pour la télévision. On est en 1966, donc c'est la même histoire de comment le Grincheux a volé Noël, dirigé, bien sûr, par Chuck Jones, qui comprenait la chanson bien connue de tous ici au Québec, « Tu es méchant, Monsieur Grincheux ». Boris Karloff, qui était à la fois le narrateur de l'histoire et la voix du Grincheux. Je ne sais pas si on peut peut-être en écouter une bande-annonce.
I must find some way to keep Christmas from coming.
You're a mean one, Mr. Grinch.
Welcome, welcome, Bahurabus. Christmas Day is in our grasp.
The Grinch got a wonderful, awful idea.
Donc, vous venez d'entendre la bande-annonce, en fait, de la première version du premier dessin animé du Grincheux qui a lieu en 1966.
Et que j'ai vu.
Ça nous amène donc en 1977, où Dr. Seuss a répondu à la demande de ses fans pour toujours plus de contes du Grincheux en écrivant, pardonnez mon anglicisme encore, « Halloween is Grinch Night », donc où Halloween est la nuit du Grincheux, qui sert de prologue au dessin animé de 1966. C'est intéressant parce qu'on est 10 ans plus tard, 11 ans en fait, exactement 11 ans plus tard, et on nous revient avec une espèce de prologue instigateur qui développe un peu plus le personnage. Et là, on fait un autre bond, un peu moins grand quand même cette fois-ci, en 82, où là, c'est Marvel, hein, contre toute attente, qui remet de l'avant le Grincheux avec l'histoire « Le Grincheux grinche le chat dans le chapeau ». Le chat dans le chapeau, qui est un autre personnage de Dr. Seuss. Donc, on reste toujours, bien sûr, dans la série pour enfants. J'ai vu une scène hier, absolument d'une tension palpable, donc, entre le chat qui a... Le chat dans le chapeau qui n'a absolument rien à faire des considérations d'autrui, ouais. Et qui est très éloquent, ouais. Hein, qui construit le vocabulaire, etc. Opposé donc au grincheux qui veut juste lui passer avec sa voiture sur une route qui est bloquée, bien sûr, par celle du chat dans le chapeau. Donc, ça nous, on a fait deux versions, deux épisodes de ce film-là, ou deux films, en fait, qui sont un après l'autre, là, une suite, et qui n'ont pas eu une critique, disons, marquée, mais qui ont quand même reçu des Emmy Awards.
Oui.
Les deux ont reçu des Emmy Awards, effectivement. Donc, il n'y a pas de bande-annonce de ça. J'ai été surpris parce qu'effectivement, les deux films ont reçu des Emmy Awards, comme je disais.
Ben oui.
Tu l'as dit.
C'est une autre époque.
Ben voilà, voilà. 82. Ah oui, toute ma jeunesse. bon, ensuite, écoutez.
Tu viens de trahir ton âge, là.
Il y a plusieurs, voilà, entre autres. Mais la majorité de notre auditoire sait que je suis intemporel.
Bien sûr.
On est, bien sûr, là, 14 ans plus tard, où il y a une série d'épisodes de. C'est une émission télévisée, en fait, en 86. De Nick Jr., où là, en fait, qui s'intitule Le monde enchanté de Dr. Seuss, qui met en vedette le Grinch, mais cette fois pour la première fois sous forme d'une marionnette.
Et c'est alors, OK.
Honnêtement, c'est la rare apparition où on voit à l'écran le personnage sans que ce soit une animation ou un déguisement, finalement. De ça, bien sûr, j'ai réussi à rien trouver sur...
Ben non, c'est ça.
C'est-à-dire, on peut voir des visuels.
C'était pour la télé, avec ça.
Exactement, c'est
chose,
des
là.
Petites émissions comme ça pour enfants, dans lesquelles le personnage est mis en valeur. Ça nous amène à la version dont tu as évoqué tout à l'heure, en 2000, le long-métrage d'animation, donc basé sur l'histoire.
C'était pas de l'animation, je pense, c'était des costumes.
C'est des costumes, mais c'est renchéri d'animation un peu, okay. C'est-à-dire qu'effectivement, le personnage là, est incarné, c'est réalisé par Ron Howard et interprété par Jim Carrey, qui joue le fameux Grincheux.
Très théâtral dans ce rôle.
Il était à l'apogée de sa carrière, d'ailleurs, il y a un petit document là-dessus sur Netflix je me suis rincé l'œil.
Ah oui, d'accord.
Mais si vous voulez bien, on va regarder on va écouter plutôt la bande-annonce de ce fameux long-métrage qui a eu lieu en 2000.
Tous les hivers, la cité magique de Chauville se fait belle pour ses fêtes préférées. Tout le monde se réjouit, sauf le Grinch. Et cette année, il a un plan.
Je crois que je tiens ma solution.
Pour empêcher Noël d'arriver.
Ça, c'est ce qui s'appelle être gâté pourri à Noël.
Alors, évidemment, en version française...
Oui, ben là, c'est alors, ça, j'ai pu trouver la chose. Écoutez, suite à cet épisode-là, finalement, il y a un jeu vidéo qui est basé sur le film, simplement intitulé The Grinch, qui est sorti sur plusieurs consoles et même sur PC en 2000. En 2007, il y a même eu une version qui a été faite pour la Nintendo DS qui portait le titre total, c'est-à-dire comment le Grincheux a volé Noël. Le Grincheux aussi, donc suite à ça, a été dépeint sur la scène quand l'histoire a été transformée en une comédie musicale par la Children's Theater Company à Minneapolis. Le spectacle parvint à Broadway en 2006. Et bien sûr, le Grinch a aussi cette même production-là, elle s'est transformée en production itinérante qui a roulé de 2008 à 2015. Et ça nous mène à la version d'aujourd'hui, donc un film, on dit, adapté sous forme d'animation de 2018. Là, je comprends ce que tu voulais dire par rapport à est-ce que c'était pas vraiment un film d'animation en 2000. Il y avait une partie animée, alors qu'en 2018, on est là, produit par Illumination Entertainment, mettant en vedette Benedict Cumberbatch, excusez-moi, j'adore dire ce nom-là, en tant que personnage principal, et je crois que c'est à l'affiche depuis le 9 novembre.
Ça fait un certain temps, mais jamais, il n'est jamais trop tard pour critiquer. C'est le Grinch, comme dit
effectivement.
Le proverbe.
Grosso modo, donc une histoire de Noël, mais qui n'est pas empreinte d'une autre culture. Et voilà.
Merci André-Jean. Je vais enchaîner avec ma critique tout de suite du Grincheux, mais le film qui est actuellement donc à l'affiche dont tu viens à peine de parler. Et voilà, je vais le critiquer rapidement. Je me suis mis un peu dans la peau d'un enfant pour aller voir ce dernier film du Grincheux. Et en fait, le film est un film américain co-réalisé et co-scénarisé et co-produit par un grand nombre de personnes qu'on ne connaît pas tant. Mais, et là je veux parler des scénaristes, il y a deux scénaristes parmi ceux qui se retrouvent dans le générique de ce film-là. Et ces deux scénaristes sont un peu plus connus. On les appelle Ken Dorio et Cinco Paul ou Cinco Paul. qui ont travaillé ensemble sur plusieurs comédies et films d'animation, dont Le Dîner de cons, la version américaine de 2010, et non pas la version française des années 90. Mais bon, on ne peut pas toutes les avoir. Hein. Et Tous les détestables mois, mais aussi un autre film basé sur une histoire du Dr. Seuss, qui est Horton's Ears a Who. Donc, Horton entend un who, qui sont les choux là, de Chouville.
Oui, c'est ça. Malheureusement, la version française est un peu...
C'est ça. Mais bon, alors ça, c'est un autre film auquel ils ont collaboré. Donc, ils connaissent un peu l'univers de Whoville. Le film met en vedette en voix anglaise, donc, comme tu l'as dit, André-Jean, Benedict Cumberbatch, Cameron Seeley, Angela Lansbury, et on écoute la bande-annonce.
Aujourd'hui, nous allons faire des choses méchantes. Et nous allons les faire de façon stylée.
Oh, bonjour et ben...
C'est quoi ça?
Alors, c'était la bande-annonce du film Le Grincheux, donc celui qui est actuellement à l'affiche. Évidemment, ça réinvente pas la roue, là. C'est le même concept que tous les autres films. Donc, pour ce qui est de l'histoire, je vais être assez bref. Comme dans toutes les versions, Le Grincheux déteste Noël et la joie. À l'aide de son fidèle chien Max, il va tenter de voler Noël aux habitants de Whoville ou de Chouville dans la version française. Ce que j'aime dans cette version, c'est que pour une fois, on humanise le personnage du Grincheux. Comment dire, dans la version des années 60 que j'ai vue, là, de 1966, le Grincheux décide d'une manière soudaine et totalement inattendue de soudainement redonner tout ce qu'il a volé aux gens. Et il n'y a aucune préparation pour ça. C'est franchement, on ne comprend pas du tout le cheminement, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, la transformation du personnage. C'était une époque où c'était pas tant nécessaire de faire ça, parce que les enfants regardaient la télévision d'une autre manière, on regardait les films d'une autre façon. Puis c'est un film de 25 minutes, là, le vieux film, on s'entend, c'était pas, c'était pas très long. Là. Mais dans la version ici, c'est vraiment autre chose. On prépare vraiment le terrain très tôt dans le film, dans notamment sa relation avec son chien, dans sa relation avec les enfants. Il est en quelque sorte, je dirais, moins méchant peut-être dans ce film-là que dans les autres, mais surtout plus humain, plus sensible, et ça renforce énormément la crédibilité du personnage parce qu'on sent qu'à l'intérieur, c'est une bonne personne qui a souffert dans son enfance, et on aborde d'ailleurs ce thème-là directement, et c'est comme ça qu'on explique dans le film pourquoi il déteste Noël très tôt dans le film. C'est vraiment bien fait. Je dirais que c'est un film qui nous montre un peu plus Whoville ou Chouville, donc ses habitants, le mode de vie des gens là-bas. C'est certain que ça s'adresse d'abord à des enfants, alors c'est normal que les enfants soient tous très cool et intelligents dans le film, que tout le monde soit heureux dans leur mode de vie un peu idyllique. Évidemment, c'est un film qui n'est pas parfait, mais je vais pas trop gâcher la magie de Noël avec des commentaires négatifs.
Fais
parce que ça s'adresse à des enfants. Ça s'adresse à des enfants, donc j'essaie d'être quand même cohérent. Je pense que honnêtement, les enfants vont adorer ce film-là. Je suis persuadé. Le gros point positif du film, en fait, c'est qu'il est drôle. C'est qu'il, c'est un film qu'on a ramené la comédie dans Le Grincheux, et je trouve ça bien. C'est pas super drôle pour les adultes, mais les enfants vont trouver ça extrêmement drôle. Y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gags, de non-verbales, de trucs intéressants avec les personnages. Je pense que ça, c'est bien. Je veux pas déloger la qualité du jeu de Jim Carrey dans la version des années 2000. Cependant, Jim Carrey, je pense, dans cette version, était le seul point positif du film. Donc, pour vous donner une idée, je donnerais un 8 sur 10 au film actuel. Donc, Le Grincheux qui est au cinéma. Je vous recommande fortement au niveau des familles. Là, allez voir ça en temps des fêtes, c'est super. C'est vraiment super, c'est sympathique, c'est drôle, une petite morale de fun, mais amené d'une façon plus moderne, plus intelligente. Là, il y a un drone dans le film. Bon, on a modernisé la sauce. Là. Et alors que... J'aurais donné peut-être un 7, tu vois, la version de Jim Carrey, et probablement un 5 au vieux film des années 60, qui est franchement pas si bon, mais...
oui, mais c'est ça, il aurait fallu que tu te mettes dans la peau d'un enfant des années 60.
Ben exactement, ce que je ne ferai pas. Donc voilà, c'est tout pour cette critique et cette discussion sur Le Grincheux, à moins que vous ayez des questions.
Merci beaucoup, Grincheux. Merci beaucoup, Jim, c'est très apprécié.
Ben de rien, en fait, et c'est déjà tout aussi pour cette édition de Cinébrunch. On se dit donc à la semaine prochaine pour le 60e épisode de Cinébrunch, déjà.
Et ben voilà, on n'aura pas le choix de souligner la chose.
Ben absolument, avec des ballons, tout le kit. Puis c'est ça, n'oubliez pas d'aller sur notre page Facebook si vous voulez nous donner votre point de vue sur le film Netflix, la balade de
Buster Scruggs. Oui, on est rendu là, je veux dire, vous avez vu ce que ça a provoqué tout à l'heure comme discussion.
Ben voilà, exactement.
Ça va devenir ingérable.
Nous, on fait ça exprès, on veut du monde sur notre Facebook. Puis c'est ça, sinon vous pouvez nous écouter en rediffusion les mardis à 11h ou nous écouter directement le samedi à la même heure. Sinon, toujours en rediffusion sur notre site web cinébrunch.com. Merci à tous d'avoir été présents. Merci Mélina, merci André-Jean. On se dit à la semaine prochaine pour un autre Cinébrunch.
Merci, à la semaine prochaine.